Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Eh bien, je n'ai pas fini de parler du même sujet, c'est-à-dire le fait d'être rempli du Saint-Esprit, de marcher par l'Esprit. Et j'ai pensé qu'il était nécessaire qu'aujourd'hui, et peut-être oui, aussi la fois prochaine, il y ait des prédications qui soient plus du type un peu enseignement, d'accord, plus que exhortation et encouragement. Mais ceci dit, ça va être les deux, hein, ça va être aussi, je l'espère, vous allez pouvoir retirer des choses aussi qui, je l'espère, vont vous instruire et vont vous encourager également et vous faire comprendre des choses. Parce que c'est bien, on encourage toujours les chrétiens à prier, à lire leur Bible, à écouter, voir des prédications, mais vous savez, si derrière cela il n'y a pas un enseignement, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'elle fait, mon épouse, comme ça ? Tu sais que je déteste qu'on me sabote, qu'on parle en même temps que moi, qu'on se promène. C'est quoi, ça ? Vous voyez, j'en profite, parce que quand c'est ma femme comme ça, vous voyez, un peu c'est de la pédagogie, vous voyez ? Comme c'est ma femme, je peux leur guirlander, et comme ça, les gens savent que vraiment, je ne suis pas d'accord. Vous voyez le truc ? Si c'était quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas. Voilà. Bon, soit, je rigole. Alors voilà, c'est important de savoir, de connaître, de comprendre la Bible, de savoir ce qu'elle dit vraiment, parce que énormément de chrétiens, nous croyons souvent dans nos églises, comme je disais un peu bibliste, nous croyons souvent dans nos églises évangéliques, évangéliques, protestantes, enfin soit de toutes sortes de dénominations, mais nous sommes entre guillemets tous les mêmes. C'est parce que, comme je l'expliquais à quelqu'un, il y a des mouvements qui sont nés à gauche, à droite, dans des pays différents, et puis maintenant, on se rassemble. Mais nous croyons trop souvent que nous connaissons tout et que notre enseignement est bon. Mais non, il y a des choses qui ont été mal enseignées, des fois, n'est-ce pas ? Alors souvent, ce n'est pas des choses peut-être très, très... Enfin, ce n'est pas qu'elles ne sont pas importantes, mais elles ne sont peut-être pas primordiales pour le salut des âmes, mais quand même, elles peuvent être quand même parfois pernicieuses parce que l'enseignement est mauvais. Enfin bref, voilà, j'insiste aujourd'hui sur l'enseignement. Parce que quand on lit, quand on écoute des prédications, quand on lit sa Bible, il faut comprendre ce qu'on lit. Il ne faut pas interpréter ça n'importe comment. Il faut savoir que quand on lit un proverbe, c'est un proverbe. Ce n'est pas une promesse, c'est un proverbe. Quand on lit un psaume, c'est poétique également. C'est pas, voyez, quand on lit un récit historique, ce n'est pas un enseignement. Enfin... on tire un enseignement, mais on doit savoir comment on fait. Bon, évidemment, je ne peux pas faire un cours d'herméneutique ici, parce que ça s'appelle, entre autres, comme ça, mais voilà, je pense que c'est important. Alors, tout ça pour dire que ce sera un petit peu un enseignement aujourd'hui. Alors, nous ne terminerons pas aujourd'hui de répondre à ces questions que je vous ai données la fois passée, parce qu'il faut aussi que je vous le rappelle. Je vais tâcher de répondre à des questions telles que, j'en ai formulé quelques-unes, mais j'espère qu'elles peuvent répondre aussi à d'autres questions, telles que, par exemple, certains se demandent pour quelles raisons des péchés parfois subsistent en eux. Pourquoi certains péchés subsistent en toi alors que tu ne veux pas ? Pourquoi, tu sembles parfois stagner dans ta vie, avec Dieu ? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses que, pourquoi tu sembles parfois être face à l'échec dans ta vie chrétienne et ne pas progresser ? Voyez, donc. Je tiens vraiment à essayer de répondre à ces questions-là. Peut-être aussi pourquoi, si le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit qui est en nous nous transforme, d'accord ? Donc c'est pour ceux qui ont décidé de suivre, qui ont accepté Jésus dans leur vie, comme on le dit, qui se sont repentis, qui ont fait demi-tour dans leur vie. Eh bien, pourquoi si le Saint-Esprit nous transforme ? Pourquoi peut-être certains ont l'impression que les choses se sont arrêtées, etc. Donc je vous avais dit ces questions-là. On tâche d'y répondre. Il y a encore au moins deux fois où je vais essayer d'y répondre, par des choses totalement différentes de ce que je vais dire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Alors, donc aujourd'hui, je vous avais demandé, je ne sais pas qui a été un bon élève et qui a lu Romains, au moins Romains 7 et 8. Quelques-uns humbles qui font comme ça. Heureusement que vous êtes humbles. Parce qu'il y a plus de paresseux que d'humbles. ça évite... Mais bon, voilà, vous savez, c'est dommage, ce serait bien. Mais pour la fois prochaine, en tout cas, lisez Romains 8, parce que Romains 7, on aura fini aujourd'hui. D'accord ? Alors, Voilà, on voit dans Romains 8, et il n'y arrivera pas aujourd'hui, la vie par l'Esprit. Vivre par l'Esprit de Dieu et selon l'Esprit de Dieu. Mais il faut d'abord qu'on lise Romains, donc le chapitre précédent. Évidemment, l'idéal, ce serait de lire toute l'Épître, mais alors là, on n'a pas encore fini. Et donc, on va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Donc, Romains 7, du verset 14 au 22. Avant de lire, je voudrais vous éclairer pour ceux qui notent. Alors, j'aurais voulu projeter aujourd'hui, mais je n'ai pas pu. J'ai vraiment terminé beaucoup trop tard et je ne sais, avec le changement d'affichage, en plus je ne sais pas comment faire. Bon, soit. Dans ce chapitre, dans la fin de ce chapitre que nous allons lire, on voit quoi ? On lit les expériences et on voit les expériences par lesquelles le véritable caractère de la chair, donc c'est-à-dire de l'être humain dans sa chair, est découvert. Donc, d'accord, je réexplique, c'est en lisant ce texte, on découvre le véritable caractère de notre chair, ce qui caractérise l'être humain. Ça va ? Et ensuite, à la fin, on découvre le besoin d'un libérateur qui libère de cette emprise de la chair et de ce qu'est l'être humain. Voilà ce que c'est la fin de chapitre. Comme ça, vous avez déjà une réponse, mais vous voyez, comme ça, déjà, vous êtes plus à même de comprendre le texte. En Romains 8, mais on ne l'abordera pas aujourd'hui, là, on découvre vraiment la nouvelle vie par l'Esprit. Et ce qui doit se passer et comment ça se passe. D'accord ? Alors, Romains 7, tu vois, c'est bien, tu as déjà affiché le premier verset. Et dans Romains, l'apôtre Paul parle beaucoup de la loi. Et il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Alors le problème, c'est que dans les églises, j'ai remarqué, dans beaucoup d'églises, un peu partout, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est la loi. Ils savent juste que c'est l'Ancien Testament, donc que c'est avant la venue de Jésus-Christ. Et ils disent ça, c'est la loi. Avant, il n'y avait pas de chrétiens, puisqu'il n'y avait pas eu Christ encore. Et les gens vivaient sous la loi. Ils avaient les 10 commandements, ils avaient toutes sortes de lois, etc. Et donc, on dit qu'ils étaient sous la loi. Et puis, ça a changé maintenant. Nous sommes sous la grâce. Jésus-Christ nous a graciés parce que il est venu, il a porté nos péchés sur la croix, il est mort pour nous, il a dit, puisque vous êtes condamnés, accusés, eh bien, cette condamnation, je la porte moi-même, je paye le prix de vos péchés que vous ne pouvez pas payer. Et en plus, il est ressuscité, donc nous sommes morts avec lui, notre chair a été crucifiée avec lui. Ce qu'on va voir aujourd'hui, que nous sommes, donc l'être humain, ce qu'est l'être humain, ce qu'est cette chair qui est mauvaise, a été crucifiée avec lui, mais aussi nous ressusciterons avec lui. Et il y a déjà cette nouvelle vie qui est en nous par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Vous comprenez ou il y en a qui ne comprennent pas ? Je voudrais dire quelque chose. Cet enseignement-là, ce n'est pas un niveau universitaire, mais ce n'est pas non plus le niveau maternel. Je parle un petit peu dans la vie chrétienne. Donc, n'ayez vraiment pas peur s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, même si vous dites « je ne m'y retrouve vraiment pas », venez me trouver, je vous en prie, n'ayez pas peur. J'essaierai de vous répondre, mais je suis obligé de faire, voilà, de mettre un niveau à ce que je dis, puis voilà, j'essaye d'expliquer des choses que peut-être certains savent, mais je ne peux pas aller dans trop de détails non plus. D'accord ? Donc, voilà. Alors, les gens, souvent, je disais, ne savent pas ce qu'est la loi. Ils disent simplement que c'est avant que Jésus-Christ ne vienne, avant qu'il paye le prix pour nous. Ils avaient toutes sortes de lois, entre autres, et c'est vrai, ils devaient offrir des sacrifices. C'est pour ça qu'on parle de l'agneau immolé. Ils devaient offrir des taureaux, etc. Ils devaient faire toutes sortes de rites. Et on dit, nous ne sommes plus sous la loi. Mais parfois, il y a une confusion avec ça. Alors, puisque ce verset parle de la loi et que ce verset dit que la loi est spirituelle, donc qu'elle est bonne, on va savoir, je voudrais vous expliquer quand même très brièvement ce qu'est la loi. Mais très brièvement, parce que ça pourrait être un cours dans une école de théologie, voilà, ça va très très brièvement. La loi. Alors, pardon, il faut savoir de quoi on parle. Et il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre parce que dans l'Ancien Testament, on parle bien de l'Ancien Testament, on ne parle pas de la loi du Saint-Esprit, non, non, on parle bien de la loi de l'Ancien Testament. Il y a différents types de lois. Dans l'Ancien Testament, donc. Il y a au moins, je vais citer au moins trois lois, mais bon, on peut les subdiviser peut-être un petit peu comme on veut, mais en tout cas, on parle des lois cérémonielles. D'accord ? On comprend déjà un petit peu en entendant le mot cérémonie dans cérémoniel. Mais... Et ce sont des lois qui étaient relatives justement à tous ces sacrifices que nous ne devons plus offrir maintenant, parce que Jésus a été le sacrifice ultime. Des lois relatives aux sacrifices, des ablutions, toutes sortes de choses. Oh là là, il y a tellement, j'ai encore lu là-dessus, et j'ai dit, oh là là, s'il fallait expliquer tout ça. Tellement de choses compliquées. Ne pas manger même certains aliments qui sont impurs. Etc., etc. La circoncision également en fait partie. Mais, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de sacrifice. Parce que Jésus a été sacrifié une fois pour toutes. Et ces lois ont été accomplies. Elles ne nous concernent plus. Elles ont été accomplies. Jésus-Christ a dit d'ailleurs, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ensuite, il y avait les lois sociales. Et le problème, c'est que les chrétiens lisent, ils croient, ils ont la Bible, alors ils croient qu'ils comprennent tout. Mais non, on n'interprète pas la Bible n'importe comment. C'est pour ça que les gens étudient l'hébreu, le grec, font la théologie, etc. Et finalement, comprennent beaucoup de choses, mais ne comprennent pas toujours tout non plus. Les lois sociales, alors ces lois, elles n'ont rien à voir avec les chrétiens. Vous voyez, parce que ce sont des lois sociales. Elles n'ont rien à voir avec nous, je vous explique. Les lois belges concernent qui ? Les Belges et ceux qui sont sur le territoire belge. Mais pas ceux qui ont passé la frontière, pas ceux qui sont en France, pas ceux qui sont en Italie, pas ceux qui sont ailleurs. C'est la même chose. Les lois sociales d'Israël, dans l'Ancien Testament il y a plusieurs millénaires, concernent Israël à cette époque-là. Point. Ça ne nous concerne pas. D'accord ? Ceux qui sont ailleurs sont soumis à d'autres lois. Il existait également, et on peut associer ces lois-là aux lois sociales. C'est pas les lois, j'en paye aussi des lois sociales, j'en paye toujours, hein, c'est pas celle-là. Hein. Bon, ça va, ça ne fait rire personne. Vous êtes bien sérieux aujourd'hui. Alors, donc, il existait également des lois civiles et même des lois sanitaires. D'accord ? Ça faisait partie un petit peu des lois sociales. OK ? Et puis, il y a au moins une troisième lois, je vais dire comme ça, ce sont les lois morales. On va les appeler comme ça, et on les appelle comme ça. Et ces lois existent depuis toujours. Parce que Dieu ne change pas. Vous voyez ? Là, on peut dire que Dieu ne change pas. Il est saint, et il veut que son peuple soit saint. Et donc, c'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi. Et nous ne devons plus faire des sacrifices, et nous ne devons pas être soumis aux lois d'un pays qui n'est pas le nôtre. Vous voyez ? Pour un peu simplifier, voire c'est presque une caricature ce que je fais, mais mentir reste un péché, voler reste un péché, faire un crime reste un péché, convoiter reste un péché, etc. Le mal qui est en nous reste un péché. Et c'est cette loi-là dont on parle ici. D'accord ? Et ça, c'est important que vous compreniez ça. Vous voyez, alors c'est un peu barbant, je sais bien. Ce que j'ai expliqué maintenant, on peut dire que c'est peut-être pas très édifiant. Mais si, parce que quand vous allez lire la Bible, et même quand vous allez lire le Nouveau Testament, vous devez savoir que quand on parle de loi, il faut comprendre ce que ça veut dire et de quoi on parle. Quand on dit que la loi est spirituelle, vous voyez, mais c'est de cela qu'on parle. C'est cette loi morale, c'est de faire le bien. Et d'ailleurs, Jésus a dit non. Toute la loi est accomplie en un seul commandement. C'est quoi ? Pardon ? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Voilà. Est-ce que toutes les lois, les ablutions, les machins et tout ça, c'est à voir avec l'amour ? Non. Vous voyez ? C'est pas de ça que ça parle. OK ? Ça va ? Et je pense que ça éclaire certaines personnes. Je pense que certaines personnes ne comprenaient pas ça. Alors il fallait que je l'explique. C'est important. Parce qu'on mélange tout. On mélange tout. D'accord ? Alors on va commencer à lire. J'aimerais lire le texte, après vous avoir expliqué les différents types de lois, j'aimerais qu'on lise rapidement le texte. Comme ça, on a une vue d'ensemble, ça va? Bon, allez, je lis avec la projection, tu y vas. Bon, nous savons donc en effet que la loi est spirituelle. Oui, elle est spirituelle parce qu'elle est bonne. Aimer son prochain, etc. Ne pas mentir, ne pas tuer, etc. Elle est bonne, elle est spirituelle. Mais moi, dit-il, je suis charnel. Donc là, c'est Paul qui parle, mais on va expliquer. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. On pourrait dire que je ne suis pas conscient de ce que je fais. Je ne maîtrise pas ce que je fais. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je déteste, que je hais. Je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Toujours cette loi bonne. Puisque je fais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas faire ces choses. C'est parce que je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Remarquez, c'est la deuxième fois qu'il le dit. Je trouve donc en moi cette loi. Ah, stop. Même mot en français. Mais ça ne veut pas dire loi dans le sens, comme je l'ai dit, cette loi morale. Encore moins cette loi sociale, civile, ou cette loi cérémoniale ou quoi. Non, ce n'est pas la même chose, là, vous voyez. Je trouve en moi cette loi. Là, on parle d'une loi. Bon, je vais vous l'expliquer tout simplement. Vous savez comment je vais vous l'expliquer, certains le savent, hein, non? Comment? Comme une loi physique, voilà. On est soumis à des lois physiques, à des lois, voilà. Hein. Je vous parle souvent de la loi de la gravitation. Pouf, vous lâchez, ça tombe. Loi, c'est une loi, c'est immuable, ça ne change pas. Vous êtes soumis à cette loi. Voilà, les lois physiques sont comme ça. Il y a toutes sortes de lois, hein, ça va? Donc, je trouve donc en moi cette règle, ce truc qui ne peut pas changer, ça fonctionne comme ça. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est un truc insupportable, parce que c'est une loi. C'est comme ça. C'est comme ça. Qui va dire le contraire? Qui va dire moi quand je veux faire le bien? Pas de problème. J'ai décidé, ma vie va changer, je vais faire le bien, je fais le bien. Je ne convoite plus. J'ai plus de jalousie, j'ai plus tout ça. C'est fini. Terminé, parce que j'ai décidé. Ah ben non. Quand tu veux faire ça, tu trouves en toi une loi qui est contraire. Parce que le mal est attaché à toi, en toi, dans ta chair. On continue. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Ben oui, je trouve qu'elle est bonne, je trouve que c'est bon. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ah tiens, l'homme intérieur. Je prends plaisir à cette loi. Mais je vois dans mes membres, dans ma chair donc, une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon entendement, vous voyez, de mon cœur peut-être, de mon intelligence, de mon choix, qui lutte et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivra de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La réponse vient tout de suite. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Oui, je sais. On est au 8 après. Voilà, quel texte, hein? Vous comprenez ce texte? Pas si facile à comprendre que ça. Et je voudrais qu'on le comprenne aujourd'hui. Alors j'espère que vous en tirerez quelque chose quand même. Mais évidemment, c'est plus la fois prochaine qu'on va voir l'encouragement. Mais vous aurez quand même déjà une petite... Aujourd'hui, c'est un constat, mais je vais vous dire en quoi ça va vous aider. Alors voilà, nous découvrons, et ce texte sert à ça. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de ça? Il parle de ça parce qu'il faut que nous découvrions le véritable caractère de l'être humain, ce qui caractérise l'être humain dans sa chair. Voilà. C'est ça, vous comprenez? C'est facile à comprendre, ça je pense. Ça va? Et donc, quand Paul parle de lui-même, il dit « je vois ceci, je vois cela ». Alors, ce n'est pas que Paul n'a pas vécu ces choses-là, ce n'est pas que Paul, comme tous, parce que je vous l'ai dit, Paul était comme nous tous, il a eu des combats dans sa chair, etc. Mais c'était quelqu'un qui marchait par l'esprit. Il a surtout remporté des victoires, on a vu, il a eu ses victoires sur la chair. Et je dis, je ne parle pas aujourd'hui comment, hein, pas trop en tout cas. Et donc, on peut dire que ce texte-là, alors excusez-moi d'utiliser un mot peut-être un peu savant, alors que je ne suis pas un savant, mais en quelque sorte, c'est l'anthropologie selon Paul. L'anthropologie, c'est quoi? Excusez-moi encore une fois ce mot un peu rébarbatif, un peu barbant, un peu. Mais c'est l'étude de l'homme, de l'être humain, vous voyez, c'est ça l'anthropologie. L'anthropologie biblique, c'est l'étude de l'homme selon la Bible, hein, ça va? Et donc ça, c'est l'anthropologie selon Paul, c'est autrement dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme selon Paul? C'est tout, ça va? Vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de retenir ces mots-là. Vous savez, moi, je ne les utilise jamais non plus, hein. Rarement, quoi. On va dire ça. Alors, les expériences expliquées ici, parce que c'est une expérience, vous voyez que on parle d'un homme, de quelqu'un, de toi, de moi, de nous, de vous, qui découvrons, qui expérimentons quelque chose. Eh bien, ces choses-là, vous le voyez, elles ne reflètent pas une véritable expérience chrétienne. Ah ben non, c'est pas ça qu'on attend de la vie chrétienne. Hein. Et ce n'est pas le reflet d'une bonne expérience chrétienne. Pourtant, c'est l'expérience que traversent la plupart des chrétiens, même tous, plus ou moins fort à un moment donné. Alors il faut en parler, non? Alors je sais qu'aujourd'hui, j'espère que vraiment ça va vous faire du bien, que vous allez pouvoir me suivre un petit peu, et je vais essayer de vite arriver à vous expliquer ça très rapidement, et que vous aurez quand même envie de revenir, que je ne vais pas trop vous barber, mais vraiment je pense que c'est important de comprendre ça. Même si je suis moins marrant que d'habitude peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Et donc, la situation exposée est celle d'un homme ou d'une femme, de vous, d'un être humain, qui a des désirs renouvelés, d'accord? Il a des désirs renouvelés, il veut faire le bien, il veut plaire à Dieu. Il cherche à faire le bien, mais en se mettant sous une loi. Il se met sous une loi, il dit « je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, mais je n'y arrive pas. » D'accord? Je dois faire comme ça, je ne dois plus être comme ça, je dois être comme ça. Il faut plaire à Dieu. Il faut faire ceci, il ne faut plus faire cela. Mais je vois dans mon corps une autre loi. Et je n'y arrive pas. Et donc, il essaye de faire ça en se soumettant à des règles. Et un chrétien, nous pouvons avoir tous bien compris le salut par la grâce. Parce que nous savons que si nous sommes sauvés, c'est par grâce, par le sacrifice de Jésus. Et nous pouvons avoir compris cela. Et pourtant, en même temps, toujours chercher à contenir, à maîtriser la chair, à dominer sur la chair, en s'efforçant de garder certaines règles. Des règles qui sont spirituelles, on l'a vu. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, ce n'est pas que vous ne devez pas considérer ces règles-là. Oui, elles sont spirituelles. Mais nous savons que nous sommes sauvés par grâce, mais nous essayons de vivre en nous efforçant de garder des règles. C'est contradictoire. Ce n'est pas que la liberté, d'ailleurs la Bible dit, c'est pas, ne faites pas de la liberté en Christ un prétexte pour pécher. Ah non, c'est pas ça que je dis, et c'est pas ça que la Bible dit, non. Mais cette liberté doit nous rendre libres pour faire ce que Dieu aime, et ça doit se faire dans la liberté, dans cette délivrance de la chair. Et c'est là qu'il y a un problème. Si je dois me forcer toujours, je découvre, et nous le voyons ici, je découvre la réalité, c'est-à-dire l'échec. Et donc, on a compris le salut par la grâce, mais on continue à essayer de suivre Dieu en respectant des règles qui sont bonnes, je le dis, au lieu de regarder à Christ et de marcher par l'Esprit. Parce que la seule chose qui fonctionne, et on développera la fois prochaine, c'est regarder à Christ et marcher par l'Esprit. Et là, je vous assure, je vais essayer de vraiment vous expliquer comment et ce qui peut empêcher. ça va, mais je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Hein, sinon, vous allez être fâchés sur moi, vous allez dire, oh, on commence à avoir faim. Et donc, le principe d'une loi, c'est quoi? C'est dire, ben, j'obtiens la bénédiction, on va appeler ça comme ça, ou j'obtiens ce que je désire, ou la bénédiction que je désire, voire même le salut, voire même tout, je l'obtiens parce que je le mérite, parce que j'ai fait des efforts. Et ça, c'est exclu. C'est exclu. On n'obtient rien parce qu'on le mérite avec Dieu. On fait les choses parce qu'on aime Dieu. Ah oui, et on a envie de les faire. Et on a envie d'être transformé. Et on a envie d'être d'accord, on a envie. Et on a cette foi et cette confiance. Et on découvre qu'en suivant Dieu, notre vie est transformée. Elle est renouvelée. Elle est, waouh, on découvre des... Ah tiens, waouh. Mais tu sais, on le disait déjà avant. Hein, waouh, moi je le disais déjà avant. Hein. Mais maintenant, le problème, c'est chaque fois qu'on dit waouh, on pense à toi. Parce qu'il a fait une exhortation où il a dit plusieurs fois, waouh, waouh, ce que Dieu fait. Et voilà, mais c'est vrai, waouh, on découvre ce que Dieu fait, on découvre le bonheur qu'il y a d'appartenir à Dieu et d'être, waouh, quoi, c'est vraiment extraordinaire. Et alors il y a des choses qui disent, mais oh là là, j'ai plus envie de faire ça parce que waouh, c'est tellement bien d'être avec Dieu, waouh, c'est super. D'accord? Et donc, on ne fait pas des choses parce qu'on doit, parce qu'on ne peut plus. Mais souvent, ça commence par ça. C'est comme s'il n'y avait pas ce vrai amour. C'est comme si vous disiez, ah oui, je vais me fiancer avec toi et puis on va se marier, mais je ne t'aime pas vraiment. Vous voyez le truc? Parce que quand on aime vraiment, et d'ailleurs, souvent, les nouveaux chrétiens, ceux qui rencontrent vraiment Jésus-Christ, au début, il y a tout qui change, quoi. Parce qu'ils aiment vraiment Dieu. Et puis après, voilà. Ça va? Vous comprenez jusque-là? Donc, le principe d'une loi, c'est que j'ai des mérites. Et que je fais les choses par mes propres efforts. Mais ça ne marche pas comme ça. Et cette histoire-là qu'on vient de voir, cette expérience-là, elle sert, elle est humiliante, mais elle sert à te montrer qu'en toi, tu n'as ni le pouvoir, ni la capacité, et tu n'as pas, ce qui est bon n'habite pas en toi. C'est la Bible qui le dit. Si la victoire sur le péché dépendait de quelque chose que tu fais, alors tu te glorifierais. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, il ne veut pas que tu te glorifies. Et donc voilà, et tout naturellement, pas juste pour t'humilier et pour te punir, tout naturellement, tu te retrouves confronté à cet échec. Nous sommes si lents à accepter la vérité de la méchanceté de la chair. Nous sommes si lents à accepter notre incapacité à vaincre le mal. Si lents à comprendre ça. Eh bien, nous sommes tellement lents à apprendre ça que finalement, ces vérités doivent être apprises par des expériences, eh bien, qui sont souvent très désagréables et humiliantes. Et ces expériences ne font que prouver que pour nous délivrer de la puissance du péché, il nous faut autre chose que notre propre force. Et vous voyez l'importance, c'est pour ça que je vous dis que c'est important aujourd'hui de vous lire un texte qui semble un texte plein de découragement, mais c'est important. Ce texte est là parce qu'il est important, et il est important pour vous aujourd'hui, il est important pour moi aussi. Parce que cette histoire-là, nous devons l'apprendre avant de pouvoir vraiment être libre. C'est l'expérience qui précède la liberté. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, on comprend qu'un des moyens, il y a plusieurs moyens, mais un des moyens pour réaliser le caractère de notre chair, le caractère de l'homme, un des moyens, eh bien, c'est cette histoire-là de chercher à faire ce qui est juste par nos propres efforts. Vous comprenez? C'est un des moyens pour nous apercevoir que notre chair est ce qu'elle est. Mauvaise et même impuissante à gérer le mal et à le surpasser. C'est une expérience qui nous amène à dire, mais misérable que je suis. Qui me délivrera? Voyez? Et donc cette expérience est importante. Elle n'est pas à négliger. C'est primordial d'apprendre le vrai caractère de notre chair et de l'être humain. Pour trois raisons que je vais vous donner. Je sais bien qu'il y en a qui notent. Mais bon. Premièrement, parce que comme Job, il faut pouvoir réaliser que et dire un jour, non, je suis mauvais. Vraiment, je suis mauvais. Quand je fais cette introspection, je vois que je suis mauvais. Et Job l'a réalisé jusqu'à dire, mais j'ai horreur de ce que je suis. Quand je découvre que quand je veux faire le bien, je suis égoïste. Quand je découvre que je n'ai aucun mérite et que je suis quand même orgueilleux. Quand je découvre que je veux le bien des autres, mais que pourtant j'arrive quand même à jalouser quand quelqu'un, ou à envier quand quelqu'un réussit, etc. Enfin, toutes sortes. Et chacun a plus ou moins des choses comme ça dans sa vie, plus ou moins. Bah, on a toutes ces choses-là. Et donc, cette expérience-là est primordiale, parce qu'il faut que je découvre ça. D'ailleurs, si je ne réalise pas ça au moins un petit peu, je ne peux pas me convertir. Quand on dit conversion, c'est faire demi-tour, dire un jour, Seigneur, je me repens. J'ai besoin que tu me sauves. Et merci d'avoir payé pour moi. Mais si je ne suis pas mauvais, je n'ai pas besoin de ça. D'accord ? Seulement après, on dirait qu'on ne le réalise plus, qu'on ne le sait plus. Alors c'est important pour ça. C'est important aussi parce que je dois pleinement réaliser que, voyez, cette expérience m'aide à ça. Je dois pleinement réaliser que tout le mérite du salut et toute grâce, justement, ce sont des grâces, toute grâce en rapport avec ma nouvelle nature, eh bien, toutes ces choses appartiennent à Dieu et toute la gloire lui revient. Vous comprenez ça? Je dois réaliser ça, vivre cette expérience pour réaliser que tout ce qui est bon, même ce que Dieu crée de bon en moi, vient de Dieu. Je m'humilie complètement, je dis Seigneur, vraiment, waouh, tu es fou, si je ne t'avais pas. Vraiment, je te demande pardon, j'ai vraiment besoin de cette nouvelle vie en moi. Et il le fait, hein? C'est ça qui est réjouissant, c'est qu'il le fait. On n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais il le fait, il nous renouvelle. D'accord? Mais on va voir ce qui l'empêche de le faire les fois prochaines. On va voir ce qui empêche, on va voir ce qui booste cette vie nouvelle. D'accord? Et troisièmement aussi, c'est important de vivre cette expérience, enfin si on peut dire c'est important, c'est pas gay, mais parce que c'est seulement donc en prenant conscience de ces choses-là que je vais enfin pouvoir expérimenter la victoire sur ma chair et cette victoire donc qui ne se trouve que en lui. Que en lui. Ah oui, comment je vais me tourner vers quelqu'un? Comment je vais crier au secours si je ne m'aperçois pas que tout seul, je ne m'en sors pas? Et donc cette expérience est quelque part souvent nécessaire. C'est mieux qu'elle ne soit pas pour certains, peut-être certains l'évitent plus que d'autres. Et donc voilà, alors je relis un peu le texte, mais je vois juste quelques petits détails dans le texte pour arriver à ma conclusion. Donc, vous voyez que on a lu ceci. Nous savons en effet, tu peux réafficher le texte, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Là, je vais juste décortiquer, mais rapidement, comme ça, vous allez bien comprendre maintenant ça. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. On a compris maintenant. Eh bien là, voilà, l'homme réalise que les préceptes, les règles, auxquels il tente de se soumettre, sont bonnes. Mais il constate que lui, il n'est pas bon. Il est charnel. C'est ce que ça dit. D'accord ? Verset suivant. Car je ne sais pas ce que je fais. Autrement dit, je ne réalise pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Et puis il dit, je ne fais pas ce que je veux, ce que je désire faire, je ne le fais pas. Et je fais ce que je déteste. Je vis cette expérience. Peut-être tu vis cette expérience encore maintenant. Que tu n'es pas, oh, désolé, que tu n'es pas un homme libre et que tu es captif. Il le dit, captif. Or, Jésus est venu pour nous apporter la liberté. Donc il y a un truc qui ne va pas. Plutôt que je dois comprendre que je dois expérimenter. Je dois expérimenter autre chose. Ça va? Or, c'est le verset suivant. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. On l'a compris. Ça va? Bah oui. Si je disais, oh, c'est chouette ce que je fais, bah, pff, voilà. Mais si je dis, ah non, oh, je ne veux pas faire ça, je le fais quand même. Ça veut dire que je reconnais que ce que je fais, ce n'est pas bien. Et que ce que je voudrais faire, cette loi, elle est bonne. Bon, ça va ? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça ne veut pas dire, oh, je n'en peux rien, c'est le péché qui habite en moi, je ne suis pas responsable. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de ça, à cause de ce mal. Il a payé, il l'a fait. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas grave. Il ne faut pas dire que je ne suis pas... Voilà, que je n'en peux rien, c'est comme ça. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la tentative de surmonter le mal par mes propres efforts, ben, ça redit la même chose, surmonter mon propre cœur par des lois conduit à la découverte que l'âme est captive de la puissance du péché. Voilà ce que ça veut dire. D'accord ? Ok ? Donc ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça veut dire je découvre que voilà, le mal habite en moi. Je suis captif de cette loi. Ensuite, au verset 18, on voit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire dans ta chair, hein, d'accord ? Ça va ? Ça veut dire dans la chair. Donc ça veut dire qu'en nous n'habite pas le bien. Attention, alors il faut faire remarquer quelque chose. Il n'est pas dit ici qu'il ne fait jamais le bien. Ça ne veut pas dire que tu ne fais jamais le bien. Mais ça dit ceci, c'est que ce que nous sommes n'est pas bon, pas ce que nous faisons. Nous faisons peut-être des bonnes choses. D'ailleurs, parfois des gens disent, je n'ai pas besoin de Jésus, moi. Je donne de l'argent aux pauvres et je suis gentil avec mes voisins. Mais ce n'est pas ça le péché. Le péché, ce n'est pas ce que nous faisons seulement, c'est ce que nous sommes. Et donc, il découvre que ce qui est bon, il le sait, n'habite pas en lui. L'échec est à l'intérieur. En dépit de tous tes efforts, la chair ne change jamais. Elle ne change pas. La convoitise, la vanité, l'orgueil, l'égoïsme, l'envie, la jalousie, vous voulez continuer ? Etc. Arrive toujours de manière répétée dans le cœur, montrant constamment que la vieille nature est là, incorrigible. Incorrigible. Ça nous amène à découvrir qu'il y a beaucoup de mal dans la chair, mais plus encore, ça nous amène à découvrir encore autre chose. J'espère que vous êtes encore attentifs, je sais qu'il faut être concentré, je sais. Ça va ? Ça va, j'arrive vraiment à la fin, j'espère vraiment que vous suivez. Ça nous arrive non seulement donc à découvrir tout le mal qui est dans la chair, mais ça nous amène aussi à découvrir que dans la chair, il n'y a aucun bien. Non, il n'y a aucun bien. La chair, c'est-à-dire, enfin, vous avez compris ce que c'est, le vieil homme, la chair. L'homme qui a été séparé, comme on dit en Adam, hein, Adam et Ève, en Adam, qui a été séparé de Dieu, eh bien, il n'y a rien de bien. D'ailleurs, il dit, hein, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien de bien. Mais, alors il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et ça, c'est peut-être la vérité la plus difficile et la plus humiliante à apprendre. C'est le fait que nous n'avons aucune force. Parce que c'est plus difficile qu'un jour s'être repenti de ses péchés, dire « Oui Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, j'ai besoin de ton pardon, pardonne-moi, voilà. Merci parce que tu es mort sur la croix pour moi, etc. » Puis alors après, je dis « Ah, je suis chrétien, je vais suivre Dieu, etc. » Et puis, ce constat de nouveau qui arrive est certainement le plus humiliant. Parce qu'on se dit « Ouais, j'ai fait mal avant. » Mais on constate que cette nature est toujours là. D'accord ? Et ça, c'est humiliant. Et donc, parce que nous découvrons que nous n'avons aucune force. Apprendre que non seulement j'ai péché dans ma vie passée, mais encore maintenant, il y a cette nature. Et alors, on termine le texte maintenant, ça va ? On termine le texte, verset 20. 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, il l'a déjà dit. Je ne trouve en moi pardon, je trouve donc en moi, pardon, excusez-moi, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, ah, il y a quelque chose de nouveau là. Mais je vois dans mes membres une autre loi, vous savez ce que ça veut dire cette loi, hein, c'est-à-dire que je ne peux rien faire contre, c'est dans ce sens-là, qui lutte, qui combat contre la loi de mon entendement, de mon intelligence, de mon cœur, et, ah, vous voyez qu'il le dit, et qui me rend captif de la loi du péché. Qui parle là? Est-ce qu'il parle pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Ah non, hein? Impossible de dire ça, ce n'est pas la vérité. Il parle à des chrétiens, nés de nouveau. Donc il parle à toi et à moi. Et il dit, je vois autre chose, une loi qui me rend captif. Il voit qu'il est captif, simplement, de la loi du péché qui est dans mes membres. Et donc, dans cette lutte contre la chair, nous apprenons, voilà, vous voyez, c'est ça qui est important. Ici, on apprend à distinguer entre nous, cet nouvel homme, cet homme intérieur. Bon, je vais essayer de m'expliquer parce que je crois que vous n'allez pas comprendre comme ça. Et le principe du mal en nous. Bien, voilà, alors, parce que ça, c'est la fin. Là, tout d'un coup, on découvre qu'il y a un homme intérieur. Ah, il y a un autre alors en moi. Il y a l'homme intérieur. Ah oui, et c'est ça la nouvelle naissance. Ah, il y a cette nouvelle nature née de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Waouh! Et c'est là. Et donc, tout d'un coup, tu découvres que. C'est pour ça qu'ils disent ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors, tout d'un coup, tu découvres qu'effectivement, cette chair-là, elle a été crucifiée avec Christ. Elle est morte. Et il y a un nouveau moi. D'accord? Ça, tu dois le découvrir. Si toutefois tu as rencontré le Seigneur, tu dois découvrir. Ne vous laissez pas distraire. Tu dois découvrir. Et c'est ce nouvel homme-là. Il est appelé l'homme intérieur. Et ce nouvel homme aime faire le bien. Il aime faire le bien. Mais on va voir aussi qu'il va être rendu capable de faire le bien. Et de le faire facilement, en tout cas plus ou moins facilement, naturellement. C'est ça qu'on va découvrir après. Ça va? Je sais que c'était un peu difficile. Je sais que c'était un peu lourd à suivre. Mais je pense, j'espère que vous serez convaincus, je pense que ça vous aura apporté quelque chose. Je l'espère vraiment. Que malgré cette difficulté à suivre, je pense que ça ne doit pas être facile à suivre, je pense que c'était nécessaire. On termine quand même en disant ceci, regardez, il dit après, misérable que je suis. Et là, on n'est plus dans l'expérience, dans cette expérience amère, mais on est dans la découverte du besoin d'un libérateur. Et donc il dit, misérable que je suis. Donc l'homme, comme l'homme, il dit en quelque sorte, mais comme l'homme est misérable, qui le délivrera? Qui me délivrera? Qui le délivrera? Donc, attention, vous avez vu, la question n'est pas comment je vais être délivré, comment je serai délivré. La question est quoi? Qui? Qui? Et la réponse vient immédiatement, tout de suite après. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis alors là, on va voir que c'est la marche selon l'Esprit et la vie selon l'Esprit. Il y a une puissance qui est en nous, qui est plus forte que cette loi, je l'ai déjà vu, que cette loi de la gravitation. Mais pourquoi alors, on va retourner à ça, pourquoi alors parfois ça ne fonctionne pas? Mais vous allez voir, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Mais nous avons en nous cette puissance et cette force, qui est cette nouvelle vie, qui est la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. D'accord, ça va? La réponse vient tout de suite. Nos ennemis, c'est-à-dire nous-mêmes, enfin notre chair, c'est ça nos ennemis, et même on parle de Satan, je dis souvent pas celui avec une fourche et des cornes, ça là, parce que celui-là n'existe pas, pour ceux qui ne m'ont jamais entendu le dire, mais l'autre, le vrai, tous ces ennemis-là sont plus forts que nous. Mais il y a en nous, qui avons accepté le Christ, une puissance qui est au-delà, mais vraiment bien au-delà de la puissance de la chair et même de Satan. Et donc je conclue en disant ceci. vous verrez dans Romains 8 que la loi de l'esprit, donc cette loi de l'esprit, ce truc qui, waouh, cette puissante loi, une loi, une puissance, on pourrait dire la puissance de l'esprit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de cette loi du péché et de la mort. On va le voir la semaine prochaine. Elle m'a libéré. Et il y a une bonne nouvelle donc, elle m'a libéré. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit même ceci, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il va donc, le Seigneur va même changer, il va même graver des choses en nous. Il va changer notre façon de penser, il va nous transformer. Amen. J'espère que ça vous sera bénéfique, même si c'était, comme je dis, un petit peu fastidieux peut-être, mais je pense intéressant. Que Dieu vous bénisse.